I'm Mr. Bilbo Baggins. I've lost the dwarves and I've lost the wizard and I don't know where I am.
L'histoire du Seigneur des Anneaux. Un mythe païen ou un récit catholique.
Bonjour, vous êtes avec Jean-Rodolphe Turlin sur Radio Grand Ciel pour parler de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Un mythe païen ou un récit catholique. Dès sa publication en 1954 et 1955, Le Seigneur des Anneaux a été un ouvrage difficile à classer. Les critiques l'ont abordé et l'abordent toujours avec des méthodes d'analyse et d'interprétation diverses, qu'elles soient littéraires bien sûr, mais aussi politiques, psychanalytiques, voire écocritiques, afin de tenter de ranger ce gigantesque roman dans une catégorie identifiable. Avec Le Seigneur des Anneaux, Tolkien a donné au public les bases, les premières clés de ce qu'on pourrait appeler une œuvre-monde, avec un réseau de textes, de récits et de mythes qui ne décrivent pas un monde différent ou hors du nôtre, mais un passé possible de l'humanité, inspiré des mythes nordiques et celtiques et imprégné de traditions et de motifs d'apparence païenne. Cet univers littéraire, qui entraîne le lecteur dans l'immensité d'un monde des temps anciens, porte également les signes de la présence de la foi catholique de son créateur. Le Seigneur des Anneaux, tel que le lecteur le découvre à sa publication, c'est-à-dire sans le Silmarillion, qui ne sera publié qu'après la mort de Tolkien, permet une première exploration de la Terre du Milieu. Celle-ci est un espace immense, avec de grandes rivières, de vastes forêts, des plaines sans fin et de hautes et dangereuses montagnes. Les cartes dessinées par Tolkien et par son fils, qui font partie du roman, renforce l'immersion du lecteur dans ce monde féerique et grandiose. La Terre du Milieu, c'est une géographie imaginaire, mais elle représente une forme archaïque de notre monde, dans un passé mythique, un passé légendaire, qui n'a bien évidemment jamais existé, puisque nous sommes dans une œuvre de fiction, mais un passé rendu possible par le réalisme dont Tolkien a imprégné ses récits, avec des royaumes sur le déclin, la nostalgie des jours anciens, et la confusion habilement maîtrisée entre l'histoire avec un grand H, même si elle est fictive, et la féerie. Le nom même de la Terre du Milieu, Middle-earth en anglais, désigne également l'espace mythique des légendes germaniques, qui n'est autre que la Terre des Hommes dans une version enchantée. Un monde parmi les 9 mondes que comportait la mythologie nordique, mais un monde illuminé par le même soleil sous lequel nous nous trouvons actuellement. Dans une interview à la BBC en 1965, Tolkien précisait
« Midgard et la Terre du Milieu, c'est le même mot. Beaucoup de gens ont fait cette erreur de croire que la Terre du Milieu est une sorte de Terre particulière ou une autre planète, comme dans la science-fiction. Mais c'est juste un mot de forme ancienne pour ce monde dans lequel nous vivons, imaginé comme entouré par l'océan. »
Cette conception originale relie directement l'univers de Tolkien aux mythologies anciennes, et donc particulièrement la mythologie nordique. D'ailleurs, si la géographie imaginaire et le légendaire développé par Tolkien servent d'écrin à ces langues inventées, les peuples qui s'expriment avec ces langues, les elfes, les nains, ou les gobelins notamment, sont également inspirés des mythologies anciennes, même si Tolkien les a façonnés, redessinés de façon tout à fait inédite. Même les hobbits, petit peuple bien particulier, un peu à part, semblent descendre d'une longue filiation de petits êtres du folklore fantastique de l'Angleterre rurale. Un folklore dont les racines remontent aux temps les plus anciens et dont la tradition est passée de la mythologie celtique des Bretons de l'Antiquité à l'influence des rites germaniques saxons jusqu'à l'adaptation au christianisme. Quant aux hommes, qui héritent de ce monde en déclin et dont ils représentent le renouveau, ils semblent sortis directement des pages du poème épique Beowulf, comme les Cavaliers de Rohan par exemple, ou bien des sagas vikings, comme Beorn dans le roman Le Hobbit, ou encore des parchemins des légendes arthuriennes, comme Aragorn, ou des archétypes des récits médiévaux, comme Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, cette inspiration explicitement, délibérément mythique, fait-elle du Seigneur des Anneaux un récit féerique païen? Comme souvent chez Tolkien, les choses sont plus compliquées que ça. En effet, Tolkien applique au Seigneur des Anneaux sa conception du conte de fées. Le conte de fées, le récit féerique, est une création secondaire qui exprime la vérité à travers le mythe et qui vise à enrichir et embellir la perception du monde réel. Dans son essai sur le conte de fées, publié en 1947, Tolkien estime que la marque d'un vrai conte de fées est qu'il doit débuter et s'achever dans la joie. Cette joie, marque de satisfaction spirituelle, se définit de manière tout à fait particulière dans le concept de catastrophe, que Tolkien est le premier à avoir conceptualisé. Le catastrophe, c'est une catastrophe bénéfique et soudaine qui apporte une joie inattendue. La joie, dans le contexte du conte de fées réussi, est alors un aperçu soudain de la réalité et de la vérité sous-jacente. Cette joie est provoquée par la révélation, la satisfaction de comprendre, au sein du monde secondaire, que cela est vrai. Le monde secondaire, c'est comme ça que Tolkien définit un monde créé par un auteur, est une création complémentaire de la création primaire, qui est celle de Dieu. Et c'est là, au carrefour de ces concepts de catastrophe et de monde secondaire, que chez Tolkien se dessine le pont qui relie la mythologie et la foi. Dieu est le créateur et a doué l'homme, conçu à son image, d'un don de subcréation, et donc de création secondaire. Ainsi, l'espace mythique est le lieu où l'homme peut exprimer son propre projet de création, un projet que Tolkien appelle, en anglais, « fantasy », et qu'on pourrait traduire plus ou moins par « imagination fantastique », et qui devient un reflet, un fragment de la vérité éternelle. Tolkien s'en explique dans son essai sur le conte de fées.
La fantasy est une activité humaine naturelle. Elle n'anéantit sûrement pas la raison, ni même ne l'outrage, et n'émousse pas non plus l'appétit de vérité scientifique, ni n'en trouble la perception. Bien au contraire. Plus la raison est pénétrante et claire, meilleure sera la fantasy qu'elle engendre. La fantaisie créatrice repose en effet sur la douloureuse reconnaissance que les choses sont ce qu'elles sont, dans le monde tel qu'il apparaît sous le soleil, sur une reconnaissance du fait, mais sans être son esclave. La fantaisie peut être poussée à l'excès, bien entendu. Elle peut être mal faite. Elle peut être employée à des fins mauvaises. Elle peut même tromper l'esprit dont elle émane. Mais la fantasy demeure un droit humain. Nous créons à notre mesure et selon le mode dont nous dérivons. Parce que nous avons été créés, et non seulement créés, mais créés à l'image et à la ressemblance d'un créateur.
Cette conception de la création est une sorte de fil rouge dans de nombreux textes chez Tolkien, en particulier ceux de l'après-guerre, où ses idées se sont affirmées et consolidées. Et elle permet de relier sa définition du mythe à sa foi catholique, en ce sens que pour lui, les évangiles contiennent la forme la plus élevée du conte de fées. Et le catastrophe dont ils font mention, c'est d'abord la naissance du Christ, qui est le catastrophe de l'histoire des hommes, puis sa résurrection, qui est le catastrophe de l'histoire de l'incarnation. Ainsi, les évangiles débutent et s'achèvent dans la joie. La relation entre Tolkien et la religion est complexe. Sa foi remonte à l'enfance. Elle est très liée au deuil de sa mère, qu'il considérait personnellement comme une martyre, car sa famille anglicane l'avait rejetée et laissée sombrer dans la misère et la maladie avec ses deux enfants, après sa conversion au catholicisme. Tolkien a été élevé avec son frère Hilary par un prêtre catholique, le père Morgan, qui a fait figure de père de substitution. En contribuant au financement d'une partie de ses études à Birmingham, le père Morgan lui a permis de compléter son éducation, d'accéder à l'université d'Oxford et, en quelque sorte, d'échapper à une forme de marginalisation sociale qui aurait pu être le destin, en ce cruel début du XXe siècle, d'un jeune orphelin catholique en terre protestante. Cet ancrage dans la foi est donc très lié à ces événements. Et Tolkien y trouve, tout au long de sa vie, un réconfort moral et spirituel. Et sa pratique de la religion reste, jusqu'à la fin de sa vie, stricte et assidue. Il ne serait donc pas étonnant que ce rapport à la foi soit lisible dans les pages de ses œuvres d'imagination. Tolkien précisait sa pensée dans une lettre à un ami, le père Murray.
Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique. Inconsciemment au départ, mais consciemment dans la révision. C'est pourquoi je n'ai pas inclus ou ai supprimé pratiquement toute référence à quoi que ce soit d'approchant la religion, les cultes, ou les pratiques dans le monde imaginaire, car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et le symbolisme.
J.R.R. Tolkien a donc écrit un jour « Le Seigneur des Anneaux est une œuvre fondamentalement religieuse et catholique, inconsciemment au départ, mais consciemment dans la révision. » Une telle affirmation de la part de l'auteur, quand on sait l'implication de celui-ci dans sa foi catholique, n'étonne pas tout à fait. Mais sortie du contexte de la lettre dont elle est tirée, elle peut sembler insuffisante et n'éclaire pas tout à fait le lecteur qui veut en savoir plus sur les intentions de l'auteur. Dans une analyse chrétienne du Seigneur des Anneaux, une chose frappe le lecteur. Pas une seule fois le nom divin n'est prononcé. Pas une seule allusion n'est faite d'une manière ou d'une autre au Sauveur. Et surtout, il n'y a pas de référence religieuse explicite. Il peut ainsi paraître très étrange, voire absurde, de faire disparaître ces éléments au sein d'une œuvre qui se veut fondamentalement catholique. En effet, l'absence de la mention de Dieu pourrait interroger l'existence même de Dieu dans cette œuvre. Tolkien pose en fait le problème d'une autre façon. D'abord, il paraît difficile de rendre ces personnages chrétiens car ils sont les protagonistes d'une fiction qui se déroule dans notre monde, mais dans des temps mythiques et, par définition, antérieurs à toute révélation. Ensuite, il n'aborde pas ce problème de façon théologique, mais d'un point de vue romanesque et épique. Car c'est dans le langage de la fantaisie qu'il a écrit son œuvre. Et la question du divin n'apparaît qu'en filigrane, sous le prisme de sa conception du mythe et du conte de fées. On lit bien ainsi cette intention de Tolkien de séparer sa foi profonde et sincère de son œuvre littéraire. Avant tout, Tolkien était un homme pudique, qui ne faisait pas étalage de ses convictions et de ses opinions, du moins en dehors du cercle de ses amis proches. S'il le fait en effet dans sa correspondance, c'est à l'attention de la personne à qui il écrit, sans imaginer que sa lettre sera un jour publiée, lue, analysée et interprétée par des millions de personnes. Ainsi, à la différence de nombreux textes de son ami C.S. Lewis, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien n'est pas un ouvrage de théologie, ni une allégorie ou une apologie du christianisme.
Thank you.
Le Seigneur des Anneaux se prête bien toutefois à une lecture chrétienne. La présence d'un vocabulaire et de thèmes spécifiques, d'un calendrier marqué par des dates symboliques, du parcours de Frodo qui évoque une véritable passion, sont autant d'indicateurs. Et quand on sait le soin et le temps que Tolkien prenait dans l'écriture de nombreux passages du Seigneur des Anneaux, ces indices permettent de percevoir la présence du catholicisme de l'auteur. Par exemple, le thème de l'espérance est très largement mis en avant par Tolkien. Non pas un sentiment qui serait porté par un vague espoir, mais l'espérance qui repose sur une véritable foi et qui, dans le contexte du roman, permet à plusieurs personnages en difficulté de ranimer la flamme de leur courage et de leur détermination. Ce thème, indissociable de l'univers de la Terre du Milieu, a fait également l'objet de recherches philosophiques et linguistiques de la part de Tolkien, et il l'a abordé dans d'autres textes que son grand roman. Toujours dans Le Seigneur des Anneaux, l'action maléfique de Sauron, le maître du Mordor, est à plusieurs reprises identifiée par l'expression « les ombres de la mort », en opposition avec l'espérance qui doit renaître dans le cœur des hommes. Or, cette expression « les ombres de la mort » est couramment utilisée dans le livre de Job, un des livres de l'Ancien Testament que Tolkien a eu l'occasion d'étudier en détail à l'époque où il participait au travail de traduction en anglais de la Bible de Jérusalem dans les années 60. Les indices sont nombreux donc, et on pourrait ajouter à cette longue liste l'évocation d'un feu secret dont le magicien Gandalf semble être le détenteur et qui paraît être la forme de l'Esprit Saint, mais aussi l'évocation récurrente d'une autre volonté, à l'œuvre tout au long du récit et rappelée à plusieurs reprises par Gandalf, encore lui. Une autre volonté qui ne contraint pas la liberté de décision et d'action des personnages. Gandalf, ce personnage emblématique du Seigneur des Anneaux, déjà présent dans le roman Le Hobbit, fait le lien entre les lectures chrétiennes et païennes de l'œuvre. Il représente l'équilibre subtil entre les deux mondes, celui de la foi chrétienne, où providence et espérance témoignent de l'intervention de Dieu, et celui des mythes, avec la notion de destin, et la féerie et sa portée fabuleuse. Gandalf permet de gommer les contradictions entre ces deux lectures et d'en sublimer la complémentarité. Il faut attendre malheureusement la mort de Tolkien et la publication de documents posthumes pour mieux cerner et comprendre la portée chrétienne de son œuvre. C'est le cas avec le Silmarillion, récit d'envergure mythique, où Dieu est présent, sous le nom d'Eru, et où, du chant de la création jusqu'à la prophétie de la bataille de la fin des temps, se croisent ici aussi un grand nombre de doubles références. C'est aussi le cas avec le texte intitulé en langue elfique « Atrabeth Finrod Aondreth », un dialogue philosophique entre une princesse humaine et un seigneur elfe, où sont évoquées la future incarnation, la notion de la chute et du péché originel, et les notions de l'espérance et de la confiance envers Dieu. La dimension chrétienne du Seigneur des Anneaux est bien une réalité, lisible directement à travers de nombreux exemples et identifiable à travers de nombreux autres. Mais nous l'avons vu, cette dimension chrétienne n'a pas vocation chez Tolkien à supprimer ou à se substituer à la trame mythique et mythologique du récit. Il y a entre les deux un soutien mutuel, une sorte de combinaison, d'équilibre, dont Gandalf le magicien est le garant dans le récit, faisant le lien entre le monde chrétien et le monde des mythes, guidant les personnages de l'un à l'autre et permettant à Tolkien de soutenir la portée de son message.
Of happiness. is rich from tender care. Repay, do not forget.
Oh, no, no, dance in the dark night. Listen to the morning light.
The colors turn to brown and black. The tyrant's face is red.
For war is the common cry. Pick up your swords and
the sky is filled.